Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de pot.
Karel est mort. Comment ça va, mon ami?
Ben, ça va super bien, toi?
Ça va très bien, merci. Je vais rire de moi par les deux clowns qui sont avec moi en studio. Arrête. Mais ça, c'est parfait. J'adore ça de même.
Comment ça? Mais c'est facile de rire de toi un peu, par exemple.
J'aime ça, c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord. Quel excellent bon point.
J'ai tendance à être d'accord avec l'affirmation de Karel.
C'est dans des situations parfaites pour ça. C'est juste ça.
C'est le moment parfait maintenant pour introduire Marco D'Amico dans la conversation. Fratello! Ciao, ciao! Comment ça va?
Buongiorno, principessa.
Enfin, il a parlé italien. Oh, non,
ça,
il était
c'est beau, ça.
Grazie a tutti. Grazie a tutti.
Grazie a tutti. Il t'a dit plein de conneries puis tu dis que c'est moi.
Ouais. J'ai rien compris, moi non plus, mais
je lui fais 100% confiance.
C'est la prononciation.
J'ai dit bonjour, princesse.
Oh! Bon, quand tu veux, je connais mon italien.
Aimer ça?
Ben oui.
C'est de l'amour.
Bonjour, princesse. Mmh. C'est super.
Moi, j'ai comme l'impression que Ben en Italie, là, ça donnerait un roman qu'on pourrait écrire à la genre Live, Love, Love. Comment ça s'appelle?
Live, Love, Love, que c'est ça?
Non, c'est Eat. Non, Eat, Pray.
Ah, c'est ça.
Mange, Pray, Prie, Aime. En français, c'est Mange, Prie, Aime.
Ouais, c'est ça.
Non, mais je pense que love, live,
love.
Eat, pray, love.
Eat, pray, love. Merci, Karel.
Ah, ouais. Ben, c'est pas mal ça. Eat, pray, love. Mange, prie, aime. C'est pas mal la même affaire.
J'ai traduit. Là, j'ai fait un. Je suis pas sûr que ça va dans ce sens-là.
Vois-tu, mais... ça vient de rentrer ça, dans la même catégorie.
C'est quoi qu'ils disent en premier? Manger. Après, tu pries, puis après, t'aimes. Voilà.
C'est bon. C'est dans la bonne ordre.
Débattez.
Moi, j'aime tout le temps tout si je mange. Je peux confirmer tout, voilà. Il n'y a pas de problème.
La bouffe là-bas, elle est extraordinaire.
Ouais. Oui, absolument. Et voilà que je viens d'entrer dans le même club que Fix avec son Dirty Do Dots.
Dirty Do Dots.
L'excellent podcast d'Eliott Friedman. OK, nos deux mangeux de pas, Karel, Marco.
32 Dots. Hey, vous êtes bons en tabarouette en anglais, les boys?
Ah,
Devils avec un Z, puis... c'est quoi encore Fix, dis-donc? 32?
Ouais, Dirty Do Dots.
32. Je ne savais pas de quoi tu parlais pendant 2 secondes avant. Merci. Bon, OK, on est prêts.
Karel, veux-tu nous dire mammoth, s'il te plaît?
Mammoth?
C'est ça, exact.
Tu c'est veux? Ça, exactement.
Ouais. Ouais, elle prononce pareil comme nous autres. Elle dit ouais, mammoth.
C'est ça.
Oui, exactement.
Bon, mammoth.
Sur papier, qui a la meilleure formation? Est-ce que c'est les Devils du New Jersey ou le Canadien de Montréal? Karel.
Sur papier. Élément clé à ne pas changer cette question sur papier, les Devils.
Ouais.
J'y vais de même parce que je ne me fie pas à l'émotion, rien de ça. Je le prends telle est la question. Je me suis obstiné un peu avec FX tantôt quand on s'est parlé. Puis si on y va sur papier, je le donne aux Devils.
Pourquoi les Devils sont meilleurs sur papier que le Canadien? Parce que offensivement, ils ont plus d'éléments. Parce que tu regardes ça, puis moi, je me dis, devant le filet, je peux-tu vraiment donner un avantage aux Devils alors que depuis le début de la saison, le meilleur gardien de but, il est à Montréal? Défensivement, le Canadien est l'équipe qui a accumulé le plus de points par ses défenseurs depuis le début de la saison à 39. Offensivement, est-ce que je prends Nick Suzuki ou Jack Hughes ou je prends Nick Suzuki? Pourquoi, Karel?
Et moi, dans ma tête, quand je regarde sur papier, c'est que je regarde l'alignement, puis je regarde les 4 trios, je regarde le potentiel que ces noms-là sur un chandail ont. Et on fait depuis le début de leur carrière dans ma tête où ils sont cette saison. Puis je me dis qu'il y a un peu plus d'expérience et c'est ça. Fait que je me fie à vraiment... Je me sors pratiquement et complètement de l'analyse de comment les gars performent en ce moment versus qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire depuis qu'ils sont dans la Ligue nationale, mettons. Puis ça, c'est mon analyse comme ça. Si je rentre dedans, dans toutes les questions qu'on va faire ensemble, tu vas voir que ça change un peu le discours. Mais sur papier, je ramène ça. Moi, c'est les Devils.
Marco?
Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on donne une légère avance aux Devils aujourd'hui. Et je dis comme légère. Ouais. Et ça se peut très bien que d'ici janvier, c'est le Canadien et de loin. Parce que.
De loin,
moi,
de loin.
De loin.
Tu t'avances à quelque part, là. Attention.
Ouais, parce que là, qu'est-ce que tu sais que
attendez.
Tu ne dis pas, là?
Attendez. Maintenant, numéro un. La grosse différence entre le Canadien de Montréal et le Devils de New Jersey, c'est un one-two punch au centre.
Ouais.
Right? T'as Jack Hughes, Nico Hischier, c'est ça qui vraiment les carbure.
C'est deux trios
en ce
qui
moment.
Frappent en plus. C'est ça.
C'est ça. T'as deux duos qui sont Jack Hughes, Jesper Bratt, Nico Hischier et la renaissance de Dawson Mercer cette année aussi. Donc, t'as vraiment les deux. Ouais. On regarde ça en Italie, c'est pour ça.
L'autre bord est pas pire aussi, Marco, sur le trio, là.
Ouais, mais Timo Meier, c'est pas un deux de pique non plus, là, mais c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est un deuxième trio. Le Canadien de Montréal, avoir Meier, Hischier, Mercer comme deuxième trio, ça serait un contender pour la Coupe Stanley en ce moment. C'est ça que je vous dis. C'est ça la différence. Donc, déjà que Jack Hughes et Jesper Bratt peuvent jouer avec quasiment n'importe qui, ils ont Stephen Lawson qui est là en ce moment, c'est un trio, un premier trio digne de la Ligue nationale. Et donc, t'as un A et un B en ce moment. Donc, pour moi, en attaque, c'est là où ce que il y a plus de non seulement de punch en ce moment, mais aussi plus d'historique de punch. Où ce que je dis que les choses peuvent changer, c'est que les Devils, je vois mal les Devils essayer d'ajouter quelque chose à cet alignement-là de façon structurelle à long terme. Ça serait plus un rental plus tard que de mal. Mais avec le Canadien de Montréal, Ivan Demidov, d'ici décembre, pourrait certainement se positionner comme étant un joueur d'un point par match, ce qui changerait la donne pour un deuxième trio quelconque. Et on sait très bien que le Canadien de Montréal se cherche un deuxième centre. Donc, si ces deux choses se produisent, mais c'est le Canadien de Montréal all day, every day, parce qu'en défensive, c'est Montréal. Dans les buts, c'est Montréal. Et que ce soit juste Montréal aujourd'hui, Montréal aussi pour le futur. Et c'est là où ce que je me suis gardé... FX m'a demandé ça, ça m'a pris comme 15 secondes de lui répondre parce que j'étais vraiment pas sûr. Mais je crois que malheureusement, le Canadien n'a pas assez de profondeur, de qualité pour se matcher aux Devils aujourd'hui.
Oh, ouais. Il nous manque ce deuxième trio-là, ce one-two punch-là qu'on l'a pas. Puis quand je dis il nous manque, c'est juste un... Ben, il manque des morceaux. On n'est pas loin de...
Ouais. Ouais, pour mais ça on est à un gros deuxième joueur de centre. T'sais, c'est tout un luxe qu'ils ont présentement. Puis le débat que j'avais avec FX et avec Ben tantôt, c'est justement ça. T'sais, qu'est-ce que tu peux ajouter si tu es les Devils de New Jersey? Peut-être un peu de muscle, un peu de papier sablé. T'sais, tu dis la défensive.
Alex Stock.
Ouais, mais en même temps, les boys, pourquoi ils ont ajouté en ce moment?
Ben parce t'sais, que rendu en séries éliminatoires, puis ça, je vais le donner à notre chum Renaud Lavoie qui va être avec nous autres dans une heure. Là. Il leur manque cet élément-là physique. Là. T'sais, mettons, là, les Devils de New Jersey, ouais, avec tout le monde en santé, t'affrontes les Panthers de la Floride avec tout le monde en santé. Personne va venir me dire que malgré tout le talent en offensive que t'as, même si Markstrom est au sommet de son art, que encore une fois, tous les défenseurs sont là, les Panthers, en jouant de façon physique, on ne peut pas rivaliser. Donc, il va falloir peut-être ajouter cet élément-là dans l'équipe. Marco?
Ouais.
Ouais, mais non seulement est-ce qu'ils veulent, ils veulent ajouter cet élément-là. C'est quelque chose que Tom Fitzgerald recherche depuis un bout. Ça, j'ai nommé le nom de Alex Tuck si ce joueur-là se rend au marché des transactions, parce que ça fitterait parfaitement sur le premier trio avec un Jack Hughes puis un Jesper Bratt. Ça viendrait compléter vraiment le tout dans leur top 6 et ça pourrait descendre Nason sur le troisième trio avec Cody Glass et Gretzky. Donc, ça aurait beaucoup plus de balance. Le problème avec les Devils, tu l'as dit, puis je pense que Renaud a fait une très belle joke, les séries l'année passée entre la Caroline et les Devils étaient vraiment juste la série la plus polie que j'ai vue depuis un bout. Vraiment, ça se touchait pas. Et donc, c'est cet élément-là qui est vraiment venu chercher l'état-major des Devils du New Jersey. Ça veut devenir plus robuste. Un peu comme le Canadien essaie de le faire. On l'a vu avec la transaction de Zachary Bolduc aussi. Mais la différence avec le Canadien de Montréal et les Devils de New Jersey, les Devils du New Jersey en attaque ont vraiment pas de relève. Le Canadien de Montréal en ont de la relève.
Exact.
Ouais, Ivan Demidov vient juste de commencer. Michael Hage s'en vient. Donc, Alexander Jarosky rentre dans la conversation aussi. Donc, moi, j'ai pas tant peur pour le futur de l'organisation tant qu'à qui va être dans une meilleure position. Mais aujourd'hui, t'as une reconstruction qui a commencé en 2017 et une qui a commencé en 2021.
Ouais, t'es en avance un peu. Fait que sur papier, les Devils. Recap de la grosse conversation.
Merci, Karel, de mettre les points sur les i. Maintenant, là, je vais vous poser deux questions rapides. Puis, vous allez voir la deuxième, c'est chien. Ça va peut-être même aller de l'autre bord de la pause, parce que je pense qu'on va débattre pas mal. Mais pour l'instant, tu parlais du 1-2 punch. Là. Jack Hughes, Jesper Bratt. Ça, c'est solide. Canadien en a un très solide également. Cole Caulfield, Nick Suzuki. Lequel vous prenez entre les deux? Marco?
Aujourd'hui, Nick Suzuki, Cole Caulfield. Mais la seule et unique raison pourquoi je vous dis ça, c'est à cause de ce que j'ai vu de Cole Caulfield depuis les 13 derniers matchs. Je crois que Cole Caulfield, maintenant qu'il joue de cette façon-ci, je peux envisager avec un centre comme Nick Suzuki et un Slavkovski en développement et un avantage numérique de première vague élite, je peux entrevoir des saisons d'un point par match pour Cole Caulfield dans la Ligue nationale. Ce qu'on a vu de Jesper Bratt, qui lui en a 27 ans. Donc, il y a assez de temps pour que Cole Caulfield arrive. Si tu regardes vraiment leur fiche offensive, au même âge, c'est carrément égal entre Bratt et Caulfield. Donc, c'est quoi ce qui fait changer la donne pour moi? C'est Nick Suzuki versus Jack Hughes. Et je pense que c'est là le débat. Et je pense que c'est là où ce que tu vas nous amener. Donc, je veux pas voler le punch. Mais c'est ça qui fait la
Marco,
différence.
Marco, arrête de voler le punch. Tu vois qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Parce que tantôt, je parle au téléphone avec Marco. Puis là, Marco prend son temps. Puis là, il me dit « FX, je peux pas vraiment prendre de décision sur les duos. » Parce que pour moi, ils sont vraiment égales, nez à nez. C'est du 50 sur 50. Hey. Là, il arrive en onde ici. Nous dit, ah, je prendrais léger avantage pour Caulfield, Suzuki.
Là, le Marco, le fratello, bello mio. Non, là, mais... va falloir commencer à avoir une conséquence quand vous nous dites une réponse à une question, puis quand vous changez ça en arrivant en nom. On a une conséquence maintenant.
Ouais. Puis, je suis d'accord, parce que là, ça mélange rien dans mes trucs, mais tu vois, moi, j'étais allé, Marco, dans. Tu sais. Où on en est là, encore une fois, dans le mot peut-être aujourd'hui. Moi, tu vois, c'était Jack Hughes puis Jesper Bratt, parce que ce qu'ils ont réussi à faire, ce qu'ils continuent de réussir à faire, là, je comprends qu'est-ce que t'amènes au niveau, puis ça, je l'ai amené à FX tantôt aussi, qu'on va parler de Jack Hughes et Nick Suzuki, puis le côté santé, là, dans ma tête, mais Jack Hughes, à chaque fois qu'il y a eu, ou à chaque fois qu'il est sur la patinoire, qu'il est en santé, qu'il joue bien, il m'impressionne, il est capable de le faire, il est slippery, c'est un joueur phénoménal, puis il y a comme le contexte des deux que quand tu le mixes avec Bratt, justement, pour leur jeu d'ensemble ou de duo, là, appelons-le comme ça, il est extrêmement complet. Puis peu importe contre qui ils font face, défensivement, même dans leur territoire, c'est facile de sortir. Tu sais, un peu le slippery de Hutton qu'on voit de notre côté qui se fait pas frapper souvent, je le ressens cette saison avec Jack Hughes. Fait que j'ose espérer qu'il va avoir une vraie bonne et complète saison cette saison. Mais moi, je te dirais que à talent égal maintenant dans les carrières dans lesquelles les deux duos sont, je veux prendre... J'ai dit que... Oh my God, tu aurais changé ma réponse. C'est ça que je voulais faire en plus. Parce que j'ai dit que...
Là, vous voyez, vois, ça
non, mais c'est fou à quel point c'est égal.
Mais ça veut dire à quel point
c'est dur. C'est dur de choisir.
C'est dur parce que, c'est ça, comparant, j'aurais changé ma réponse solide. Fait que les deux, on a des pénalités, Marco, puis je voulais juste m'assassiner avec toi, dans le fond, c'est ce qui est arrivé. Mais j'irais avec carrière-expérience versus... Parce que les deux équipes n'ont pas nécessairement accompli quoi que ce soit, pour l'instant. Il n'y a pas rien, une reconstruction, tu l'as dit, 2-3 années d'avance. On rentre dans quelque chose de différent. Est-ce que ces deux-là pourraient nous amener en quelque part plus rapidement, si je les regarde aujourd'hui? Ouais. C'est le même que je veux dans celle-là.
J'adore ça. C'est un beau débat, puis on va continuer là-dessus. On va monter ça d'un autre niveau. Là, vous avez vendu le punch un peu. Jack Hughes, ouais. Nick Suzuki. Mais je vais vous amener une petite balle courbe dans la question. On revient avec nos deux mangers de puck. Ce sera pas trop long.
Ici, ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangers de puck.
Avec Marco Coco D'Amico et Karel et Marc qui sont là. OK, on vous a posé une question maintenant, avant la pause. Qui prenez-vous dans votre équipe? Mettons, vous avez premier choix au repêchage, ce sont les deux joueurs qui sont disponibles, Jack Hughes et Nick Suzuki. Mais dans votre réponse, vous n'avez pas le droit de prendre les blessures en considération.
Ça, c'est chiant.
Mais non.
C'est-à-dire au repêchage, là.
Sur papier.
C'est au repêchage, là.
T'as le premier choix, là.
Marco, il aime ça, les listes, là, puis les repêchages, là, puis les espoirs, puis il a sûrement vu jouer
ils
Jack Hughes.
Chart, tout est là, tout est fait.
Il a sûrement vu jouer Jack Hughes à partir de 5 ans, là. Prenez Jack Hughes ou Nick Suzuki. Marco.
Oh, il voulait pas commencer, d'après moi. Il est nerveux, là.
J'ai-tu l'air d'un gars nerveux, moi? Non.
J'ai de l'attitude,
non,
déjà.
Non, mais ouais. T'as fière à l'heure.
Attache-toi la tuque. Attache-toi la tuque, parce que moi, c'est Nick Suzuki. Et une des raisons pourquoi je le dis, c'est parce que je pense comme un DG à un atout. Et quand je regarde l'atout, quand les Devils vont devoir signer Jack Hughes, ça va demander de la lune. Ça va demander la lune. On l'a vu comment ça l'a négocié avec son frère. Ça va pas être la même chose avec Nick Suzuki. Donc, moi, je pense à long terme, construire une franchise, le joueur, si j'ai vraiment à faire une évaluation entre les deux, c'est vraiment du 50-50. Là, je me fie à les impondérables, les choses qu'on peut pas mesurer côté statistique. Nick Suzuki a plus d'expérience en série que Jack Hughes et a pris un club dans le temps qui était basé largement en défensive et avec un gardien de but, des vétérans, et les ont amenés en finale de la Coupe Stanley en étant le meilleur pointeur du club. Donc, pour moi, en termes de leadership, en termes d'un gars qui peut jouer dans toutes les situations, en termes d'un gars qui peut être visible même durant les séries, et je le sais qu'il y a eu une série, une année où ce que Jack Hughes a fait les séries et ça frôlait le point par match, mais quand ce qui vient tente de le faire tout le long de la saison, et que tu dois le faire en étant checké de force, c'est là où ce que les gros joueurs ressortent. Et je pense que c'est là où ce que Nick Suzuki va être vraiment à une coche de haut. Je pense que Jack Hughes et Nick Suzuki, côté offensif, impactent la game de la même façon à ce stade-ci de leur carrière. Et peu importe les blessures, c'est bien correct. Mais moi, j'entrevois utiliser un gars comme Nick Suzuki à toutes les sauces. Donc, avantage numérique, désavantage numérique, 5 contre 5, 3 contre 3.
Mais t'as dit, je sais pas s'il peut le faire 5. Tout au long d'une saison, mais il a quand même fait 99 points en 78 matchs il y a deux ans.
Là. Jonathan Chichou a marqué 54 buts une fois aussi. Hein. C'est... Regardez la stat sheet, parce que t'as eu une bonne saison.
Mais qu'est-ce que tu viens de l'Est?
Regarde où ce qu'il est en termes de joueur, en termes de production, en termes de son point par match. Ça l'a plafonné depuis combien de temps? Nick Suzuki ne fait que monter, et ce, en jouant à travers ses blessures. Parce que lui, il est fait plus fort, il sait comment se protéger de ses blessures, il joue de façon plus intelligente. Tandis que quand je vois Jack Hughes, pour moi, de base, n'est pas un centre. Hein, devrait jouer à l'aide. Je pense qu'avec les Devils, on aimerait éventuellement apporter un joueur qui va aider dans les mises au jeu et l'aider dans les responsabilités au centre. Donc, pour moi, un vrai centre numéro un qui peut être utilisé dans toutes les sauces, c'est Nick Suzuki, ici, maintenant et à long terme.
Ouais. Juste, avant de te laisser parler, parce que je vais reformuler mon argument, là, pour ceux qui aiment beaucoup l'argument de Marco, vous avez raison, c'est un très bel argument que tu as fait pour Jonathan Chichou, mais il a connu un début de carrière, c'est-à-dire ses deux premières saisons horrible au New Jersey. On parlait de lui comme étant un bust. Maintenant, 367 points en 381 matchs depuis le début de sa carrière. Je pense que sa saison de 99 points en 78 matchs n'était pas une saison qui était un one-off, si on veut. Je recadre mon argument.
Non, je ne dis pas que... Mais... Je ne dis pas que c'est un one-off, mais merci, de dire qu'il a fait 99
points.
Non,
mais là-dessus, je pense que ton point, Greg, est intéressant, mais en plus, tu ne le laisses pas finir. Ça, c'est tough en tabarouette. Ça, c'est un argument gagné d'avance pour rien. Marco, il a raison parce que ce qu'on veut dire là-dedans, parce que moi aussi, je m'en vais vers Suzuki, puis moi, je te le donne d'une façon un peu plus. La joueuse ou le joueur qui avec qui tu veux jouer aux côtés de le GM, je suis complètement d'accord avec toi, où tu veux t'en aller dans ta progression, puis. Vers qui ou avec qui tu veux entourer ton équipe ou bâtir autour de Suzuki, pour moi, est le joueur parce que ça serait formidable d'avoir un Suzuki et un Jack Hughes. Je vois Suzuki comme un gars qui est capable de jouer dans le 200 pieds au complet, un gars qui va potentiellement être dans les conversations d'un Selkie, même peut-être cette saison, parce que le gars fait tout ce qu'il a à faire défensivement et plus, il est dans le milieu du peloton en ce moment dans la Ligue nationale, là, quand tu regardes les statistiques, les jeux défensifs, tout ce qui amène autant défensif qu'offensif a un impact majeur. Moi, je mets Suzuki dans le joueur complet de la, tu sais, la crème dans la Ligue nationale versus Jack Hughes qui va être ton élément offensif à chaque fois. Je sais pas si c'est le gars qui va bloquer le temps de lancer si tu compares les deux, si on y va juste avec un élément comme ça. C'est pas nécessairement un gars qui va payer le prix autant dans ma tête non plus pour faire un repli défensif ou se remettre dans une situation où il peut aider son équipe. Plus ça vient peut-être plus naturel ou naturellement avec Suzuki. Fait que dans ton argument, je comprends que Jack Hughes marque et a des points à chaque saison depuis qu'il est là. Puis oui, il n'y a pas eu nécessairement une saison complète. Sauf que lorsqu'on regarde les deux profils, c'est deux profils différents dans ma tête.
Ben oui.
Puis je suis d'accord, c'est pas un sens non plus. Puis de l'autre côté, oui, t'as un élément offensif, mais l'autre t'amène des deux côtés.
J'adore ta réponse, Karel. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais je vous pose maintenant la question bien candidement parce que sur la messagerie texte, notre gang là, du tailgate nous pose cette question-là. Est-ce que la meilleure comparaison à faire, ce serait Suzuki et Nico Hischier? On sait qu'on préfère Suzuki à Hischier fort probablement, mais Jack Hughes à Demidov à ce moment-là, qui ont des rôles plus similaires, si on veut, selon ce que Karel nous dit.
Probablement.
Ton punch mais offensif, Jack Hughes à Demidov. Non, je sais qu'on n'est pas là, mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand on les recorde dans leurs rôles respectifs, puis c'est un débat très ludique qu'on fait présentement parce que des mauvaises réponses, il n'y en a pas. On a du fun à s'ostiner.
Il n'y en a pas, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. T'sais, on parle joueur courant. T'sais, Suzuki va être un peu plus dans le style à la Barkov de ce monde qu'on connaît en ce moment et qu'on a vu évoluer dans la Ligue nationale. Puis je suis d'accord à dire que... Je sais pas. Je suis d'accord à dire que ouais, Demidov pourrait se rendre là, mais j'ai comme un angle à dire que Demidov va nous en donner un peu plus défensivement aussi. Marco, je sais pas comment tu le vois, mais moi, de ce qu'il a fait avant puis de ce qu'il fait en ce moment, dans les scénarios, il n'est jamais hors... Il est jamais mal placé ou hors scénario d'être dans le contexte de lever un bâton ou d'enlever une passe ou de bloquer justement une passe qui s'en vient vers son défenseur ou un joueur dans l'enclave. Il est conscient défensivement, tu sais.
Demidov est sorti d'un système où ce qu'il est pas nécessairement... C'est pas acquis que tu dois être physique. C'est pas acquis que tu dois utiliser ton corps pour protéger la rondelle, pour combattre contre un adversaire, pour gagner possession de la rondelle. Et lui, il est arrivé sur place et l'a fait de façon naturelle et continue à apprendre dans ce contexte-là en ayant, selon moi, le même gabarit de skills qu'un Jack Hughes. La capacité avec les mains, de te battre one-on-one, d'être capable de te battre, pas nécessairement de vitesse comme Jack Hughes, mais de te battre à cause de son intelligence. Mm-hmm. Et d'ailleurs, plus gros que Jack Hughes, plus costaud que Jack Hughes, et d'ailleurs... un joueur à 19 ans qui est déjà plus complet que Jack Hughes l'était au même âge. Donc, pour moi, en termes d'offensive, l'offensive va toujours être là, puis nous autres, on va toujours évaluer le joueur en termes de points. Mais moi, j'ai été dit fermement, puis j'apporte ici la comparaison. La raison pourquoi la grande majorité des recruteurs préfèrent Demidov à un exemple, Matvei Michkov, est exactement cette raison-là, parce que les deux ont un talent élite brut. Mais il y en a un qui va travailler 60 minutes plus 5, et il y en a un autre qui va travailler potentiellement une trentaine. Et c'est là qui fait la différence. Quand on regarde Jack Hughes a le même talent, le même moteur et tout. Mais Jack Hughes, lui, le moment que ça commence à être un peu plus physique, un peu plus difficile de rentrer dans le milieu, on le voit un peu moins. Et ça, si on regarde les quatre nations, c'était exactement ça.
Ouais.
Donc moi, quand on je pense à un joueur... Je veux un joueur qui va être capable d'élever son jeu.
On voit Demidov qui s'en va dans les mêlées, qui n'a pas peur de s'en aller. Puis Jack Hughes, de son bord, lui, il s'en va au banc des pénalités puis il crie « Hey, le monde paye, moi, pour me voir jouer.
»
Ouais. C'est la différence entre les deux.
C'est des différentes aussi. Là,
ben
c'est
oui.
C'est des bons gars, pareil.
Ce que tu parles aussi là-dedans, Marco, c'est comme... C'est comme des actions de... Je regardais ça, là, « That takes no talent ». Fait que ça, c'est des actions qui sont des efforts. T'as même pas besoin d'être le plus talentueux au monde. En autant que tu te donnes à 100% dans tes chiffres, à chaque fois, ça prend pas de talent. C'est ces efforts-là, loin de la rondelle. Est-ce que Jack Hughes nous donne cette espèce de moment d'énergie-là ou d'effort à chaque fois qui pourrait être dans un jeu ou qui pourrait enlever la rondelle à un gars ou qui pourrait gagner une bataille à 50-50? Je le vois pas aussi... permanent ou prominent que quand Demidov rentre dans une bataille, admettons, ou quand Suzuki.
Hey Marco, Marco, je veux t'envoyer une balle courbe en terminant parce que je pense qu'on en a parlé brièvement au début des manges de Puck de Jordan Kyrou, mais là, ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux parce qu'on se rappelle que cet été, notamment, le nom de Kyrou était peut-être relié à celui du Canadien de Montréal. Sa clause de non-échange a débuté, je crois, cet été. Alors, le moment propice pour le directeur général des Blues, c'était de l'échanger là, avant l'été.
1er juillet, oui.
1er juillet.
Oui.
Est-ce que le Canadien s'inscrit toujours dans les destinations potentielles si on décide d'échanger un gars comme Jordan Kyrou?
Attends, je vous pose la, parce qu'il nous reste 30 secondes, je vous pose la question de cette façon-là, vous répondez par oui ou non. Karel, Marco, on commence par Karel.
Oh my God.
Est-ce que Jordan Kyrou est parti de Saint-Louis selon toi?
Il fait partie ou il part?
Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il s'en va de Saint-Louis? Là, il est mis de côté. Là. Il est healthy scratch ce soir. On le laisse de côté pour le match de ce soir après un début de saison. Un peu.
Mais si on lit un peu tout ce qui se passe depuis le début, ça semble être le seul. Je veux même pas rentrer dans les ouais-dire, là, mais.
Non, mais c'est correct. On te demande ton opinion d'experte en la matière.
Moi, je pense que c'est comme déjà un peu entamé dans ma tête.
Marco?
Je ne crois pas qu'il y a rien d'imminent dans le cas-ci. Ça, c'est Jim Montgomery qui est en train de passer un message à une chambre qui ne donne simplement pas assez en ce moment. On croyait pouvoir faire les séries. Ils sont très, très loin des séries. On se souvient tous que j'en parlais des Blues de Saint-Louis comme étant un club à regarder si ça ne commençait pas bien l'année. Mais je doute fortement qu'on va commencer à échanger un joueur comme Kyrou avec une clause de non-échange dans le milieu d'une saison comme si. Si ça se donne, ça va s'empirer et ça va être probable.
Je pense pas que l'échange est fait, mais je pense qu'en plus du message, tu viens de dire, bon, mais je sais pas si on a besoin de toi. Tu sais qu'il y a des messages un peu plus sévères que d'autres, là, mettons.
Ouais, mais Jim Montgomery, c'est aussi un entraîneur qui a pas peur de bencher ses étoiles. Donc,
non,
pour moi,
vrai.
Puis de ce que je me suis informé aujourd'hui, parce que je sais que Greg était très, 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 très curieux. moi, ce que je me suis fait dire, c'est que non. Ouais, non, je sais. Moi, ce que je me suis fait dire, c'est « don't read into it ». Ne lisez pas là-dedans. C'est simplement pour fouetter le club. On verra ce que ça donne. Si ça reste comme ça, on peut en parler en décembre.
C'est pour ça qu'on vous posait la question. Merci, Karel. Merci, Marco. D'ailleurs, si vous voulez ressembler à Marco, là, pas dans son déguisement de vendredi dernier, mais présentement avec son T-shirt de BPM Sport, vous textez BPM au 514-790-0919. Vous allez voir toute la collection. Oui, il y a des trucs, il y a des casquettes, il y a des T-shirts, il y a des cotons wattés, tout ce que vous avez besoin pour l'automne et l'hiver. Mais cela étant dit, merci Karel, merci Marco. C'était incroyable de vous avoir aujourd'hui.
Bye guys.
Bonne journée tout le monde.
Bonne journée à tout le monde.
Merci beaucoup. Salut.